qui est une séance ordinaire, mais pas techniquement. Donc j'ai besoin de savoir et de vérifier les pouvoirs en cas d'erreur, de faute technique, enfin qu'il y ait une coupure technique, qu'on s'assure bien. Pour les gens qui sont en présentiel, je vérifie que tout le monde est là. Delphine Bonin, Nadie Boily, présent. Thierry Bourguignon, Serge Chédel, Christine Chagnon, Eric Correa, Jean-Bernard Damien,
présent.
David Gipoulou,
présent.
Dominique Hippolyte, Hervé Jarouard, Éric Manouvrier, Daniel Pradignac, présent. Jean-François Thomas, Michel Vernier est présent, Arnaud Vernier, Daniel Vazan.
Présente.
Bien. Alors, pour les gens qui sont en visio, Pauline Cazier est présente. Tu m'entends, Pauline? Je ne m'entends pas. Pauline, appuie sur ton micro, Pauline.
C'est bon.
Pauline, tu m'entends ou pas?
Elle m'entend pas. Visiblement, non.
Non. Bon, Génie n'est pas là. Elle a donné pouvoir à David Gipoulou. Je vais doucement pour les services. Hein. Philippe Liron n'est pas là. A-t-il donné un pouvoir à David Gipoulou? Parce que vous avez sur droit à deux pouvoirs. Hein. Ginette Duboclar est là. Elle a coupé sa caméra. Ginette, remets ta caméra. Oh là là.
J'ai des soucis, ça marche pas.
Si, tu vas revenir. Bien, Ginette, si pendant un vote, il y avait... Parce qu'on va voter sur appel à chaque fois. Donc, si tu avais une... Si, je le dis à tous, si vous aviez une coupure technique, il faut que vous puissiez donner un pouvoir à quelqu'un qui est en présentiel.
Oui, d'accord.
Alors
Je donne mon pouvoir à Annie. Bon.
Tu donnes pouvoir à Annie?
Oui.
D'accord. Très bien, Sabarly. Non, elle n'est pas là, Annie Sabarly.
Je
ne
suis pas en présentiel, moi. Pas beau.
Non.
Je suis à la caméra.
Alors, Liliane Durand-Poudan, je vais revenir vers toi. Donne pouvoir à Arnaud. Christian Dussault.
Donne pouvoir à Nadie Boily.
D'accord. Gérald est là. Non, il est là, il m'entend. En cas de coupure technique, à qui donnes-tu pouvoir?
Jean-François, s'il peut.
Mais il va pas pouvoir les avoir tous, hein?
Ben oui, c'est sûr, moi, doute.
Bon, ben on essaiera de se débrouiller. J'espère que ça va pas couper, hein? Donc, tu prends celui de... Il prend celui de Gérald. Jean-François prend ton pouvoir, hein, d'accord?
Ok, ça marche.
Cécile, en cas de coupure...
Daniel, je pense.
Daniel, d'accord. Bon, du coup, Serge Falipou n'est pas là. Donc, je peux rien faire. Martial, je sais qu'elle donne pouvoir à Arnaud Vernier. Et Annie Sabarly, en cas de coupure, donne pouvoir à qui? À Michel Vernier, je crois que tu m'avais dit. Hein.
À toi.
D'accord. Merci, très bien. Voilà, on a tout. Je vérifie si c'était ça. C'est bien ça. Mais je préfère interroger pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors, vous avez reçu le compte-rendu de la séance du 29 mai. Non, pardon. Voilà, vous voyez, ça commence. C'est du dernier conseil. Du 17 février, là je vais faire voter collectivement hein, parce que c'est le compte rendu. Est-ce qu'il y a des observations sur le compte rendu du 17 février? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc ça c'est adopté. Oui, monsieur Damien.
Non, c'est juste une question. Dans la période un petit peu
inédites, enfin beaucoup inédites que l'on rencontre. Et puis encore aujourd'hui, effectivement, et la situation est plus inédite où on se trouve aujourd'hui. Est-ce qu'il est prévu une prise de parole un petit peu générale là, sur les conditions de, voilà, soit maintenant, soit plus tard, je ne sais pas. Est-ce que vous...
Alors, les prises de parole sont toujours autorisées dans ce conseil municipal depuis toujours.
Non, d'autres pas.
On peut effectivement le faire, mais ce n'était pas prévu. Mais moi, je veux bien le prévoir. S'il y en a qui veulent s'exprimer... Mais le sujet, c'est quoi? La période Covid, c'est ça? C'est...
Ben, la période inédite, effectivement, l'évolution de ce qu'on fait. Comment?
Parce que...
Les élections, parce qu'effectivement, on n'aurait pas dû se trouver là, ça c'est clair. Enfin, pour certains, il y a l'espère, d'autres moins.
Dans le premier... Alors là, on est en train de discuter d'une façon informelle. Hein. Le premier sujet qu'on a à l'ordre du jour, c'est justement l'adaptation des modalités de réunion de décision du Conseil à distance durant l'état d'urgence. Est-ce qu'on le fait à l'issue de ça? Ou est-ce qu'on le fait avant de commencer? Moi, j'ai pas de...
Ça serait quand même mieux de le faire à l'issue du compte-rendu.
Il faudra porter un sujet...
Après, il y a eu une demande sur les mesures qui ont été prises, y compris avec le coût financier qu'elles ont engendré. On peut le faire à ce moment-là. Ou alors, on fait une déclaration préalable avant le conseil. Ça va être égal, franchement.
Bon. Moi, je pense qu'il est bien de fixer les règles du jeu. Et puis, moi aussi, j'ai une intervention, donc... Ouf. Fixer les règles du jeu, puis on s'exprime effectivement sur le sujet, oui. Ah. Oui.
Bien, non, mais la question, est-ce qu'il était prévu des interventions liminaires ou pas liminaires, d'ailleurs, et à quel moment, c'était pas prévu, puisqu'il y a des sujets à l'heure du jour qui nous permettaient, je crois, de débattre. Mais je veux bien qu'on fasse, avant de commencer, avant d'ouvrir l'heure du jour, les groupes qui souhaitent s'exprimer peuvent le faire. On y va comme ça? De toute façon, il n'y a pas de bonne solution. Voilà, donc monsieur Damien, vous avez la parole. Alors mettez bien vos micros et pour que tout le monde entende les micros. Hein.
Monsieur le maire, merci. Bon, c'est vrai que c'est une période inédite que nous traversons. Nous vivons dans un grand désordre planétaire. Nous sommes confrontés à une crise mondiale qui peut avoir des conséquences très lourdes sur l'avenir de l'humanité. De longue date, les écologistes ont lancé des alertes. Alors, je voudrais effectivement avoir de...
Vous n'entendez pas ?
Je voudrais avant d'approfondir mon propos, effectivement, remercier, je pense que ça a été fait plusieurs fois, mais tous les métiers, en grande majorité du service public, qui nous ont été indispensables et primordiales dans cette crise. Alors, un petit zoom sur la tenue de notre conseil municipal d'aujourd'hui. Dans un tel contexte de crise, si des mesures autoritaires doivent être prises, elles doivent être les plus limitées possibles, en nombre, mais aussi limitées dans le temps. La démocratie doit rester une revendication permanente, encouragée par une culture démocratique sans cesse renouvelée au sein des exécutifs et ouverte aux citoyens. L'urgence écologique est aussi une urgence démocratique. La mobilisation citoyenne est le levier majeur de réussite d'un projet de transition écologique. Et les défis à relever sont tels que son appropriation par tous les citoyens sera indispensable pour réussir. C'est voilà, sur la période. Nous constatons que la relance, entre guillemets, elle-même, se dessine à la va-vite, hein, on le voit tous les jours, sans véritable consultation démocratique. Je vais ouvrir les guillemets, puisque c'est une citation, « Cette crise nous concerne tous et ne sera résolue que grâce à un effort commun impliquant les citoyens dans la préparation et la prise de décision. » C'est une citation, en fait, des membres de la Convention citoyenne pour le climat, comme vous le savez, qui a beaucoup travaillé, qui avait rendu d'ailleurs un rapport sur des propositions à faire à la sortie de crise. Les dégâts socio-économiques de la crise liée au coronavirus seront immenses. Nous devons, tant que faire se peut, apporter des réponses urgentes aux différents acteurs, aux plus précaires bien évidemment en premier lieu, au secteur économique, tout en faisant attention à faire vivre notre démocratie. Mais les réponses à moyen et long terme ne peuvent dissocier l'approche économique de l'approche écologique. Le choc de la crise a montré la fragilité de notre société, de nos modes de production, l'impasse où nous a mené les différents politiques de ces dernières décennies. Cette crise n'est pas seulement sanitaire. Elle est structurelle à notre société, construite par des politiques accordant une priorité systématique à l'économie libérale. Les crises de plusieurs ordres pourraient s'enchaîner rapidement et feront nécessairement partie de notre horizon politique. Les écologistes n'ont jamais cessé d'alerter sur les enjeux vitaux de nos sociétés, et en particulier sur le dérèglement climatique et la perte drastique de la biodiversité. Non pas pour annoncer des catastrophes, mais pour exiger l'urgence d'agir vers un modèle de société mettant l'homme et la nature au cœur de décisions politiques. Nous devons urgemment, et cette crise nous l'a rappelé de façon violente, évoluer vers une véritable transition écologique au niveau mondial, mais aussi au niveau local. L'un et l'autre sont complètement connectés. Nous devons lutter pour que les effets de ces dérèglements soient les moins importants possibles. Mais nous devons aussi préparer notre territoire à une grande résilience. Les décisions que nous prenons et prendrons ici auront un impact déterminant pour les habitants de notre territoire. Cette épidémie et sa propagation rapide sont liées à la destruction accélérée des habitats sauvages, combinée à une mondialisation insuffisamment régulée. Elle renforce l'urgence d'une remise en cause de notre mode de production et de consommation. La transformation écologique est le nouvel enjeu de notre République. Nous devons prendre des mesures urgentes de solidarité indispensables. Sur les mesures sanitaires, bien évidemment, sur des mesures sociales, sur des mesures éducatives et culturelles, sur la démocratie et l'état de droit, et sur les dispositions économiques et sur la solidarité européenne et internationale. Mais il faut aussi immédiatement repenser le fonctionnement de notre monde. Il nous faut repenser nos modes de développement et d'échange, nos manières de vivre, nos relations aux vivants humains et non humains. Nous devons reposer la question du sens de nos vies, de nos activités, de notre rapport à l'autre et à l'environnement. Il nous faut donc changer de modèle. Il nous faut développer un autre rapport à la nature. Il nous faut une nouvelle donne sociale. Il nous faut une nouvelle donne économique, avec une réduction de l'empreinte écologique de notre économie, avec de fortes relocalisations. Ici même, nous pouvons et nous devons agir par le développement d'une sobriété énergétique et non carbonée, par une production et une consommation vivrière localisée, par des espaces publics apaisés, conviviaux et respectant la biodiversité, par le développement des modalités douces, par des politiques sociales et solidaires sur tout le territoire, par une gestion de l'eau respectant le cycle et sa circulation sur le bassin versant, etc. etc. Nous avons beaucoup parlé du monde d'après. La crise n'est pas terminée, mais les décisions fortes pour une réorientation de nos politiques doivent être prises dès maintenant. Des prises de conscience se sont fait jour, des aspirations fortes et légitimes se sont exprimées. Ne les décevons pas. Ne ratons pas ce virage vers un monde meilleur pour tous. Et en guise de conclusion, je citerai donc Albert Einstein. On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Merci.
Bien, Monsieur Vernier.
C'est bon? Non, c'est pas bon. Ça résonne? Oui. Oui, moi aussi, comme Jean-Bernard, c'est vrai que j'ai préparé une petite intervention qui va peut-être aller un petit peu au-delà des...
Essaye de relever peut-être ton micro. Voilà.
Oui, une intervention qui va aller peut-être un petit peu au-delà des simples dossiers qui nous sont présentés, mais qui effectivement est très liée de toute façon avec tout ce qui nous préoccupe au quotidien. Je veux déjà, au nom des élus du groupe communiste, saluer et remercier tous les acteurs mobilisés pendant cette crise. Toutes celles et tous ceux qui ont fait que notre société n'est malgré tout pas tombée dans le chaos le plus complet. Je veux bien sûr tout particulièrement saluer et remercier les soignants qui ont fait bloc tous ensemble et ont su s'organiser dans des conditions parfois indignes, parfois au prix de leur épuisement, de leur contamination et de décès. Je veux témoigner de notre soutien à toutes celles et tous ceux qui ont et sont encore touchés par cette terrible maladie à des degrés divers. Je veux localement saluer et remercier chaleureusement le personnel du CCAS qui a été et reste admirablement mobilisé aux côtés des plus fragiles. Je veux saluer le travail constructif réalisé dans la collectivité avec les représentants du personnel. Je veux aussi saluer très sincèrement la qualité du travail réalisé par les services de la ville dans un contexte difficile, avec des moyens modestes. Nous l'avions déjà constaté, les problématiques posées sont toujours traitées pleinement par les services, avec une compétence, une justesse et une précision exemplaires. Je tenais à le souligner et je tiens à remercier très largement tous les agents de la ville qui, par leur engagement, assurent sans relâche la continuité du service public. Pour sa part, l'équipe municipale a agi au mieux de ce qu'elle pensait devoir agir en responsabilité, je pense, comme l'aurait fait tout autre. L'État, une fois encore, compte sur les collectivités pour pallier à ces insuffisances, alors même qu'ils ne cessent de réduire leurs moyens. Que de mépris à leur égard de la part du gouvernement. Le gouvernement compte aussi sur les salariés et la dégradation de leurs conditions de vie pour relancer l'économie, alors qu'il ne cesse, comme d'autres avant lui, d'amoindrir les droits des travailleurs. Le gouvernement, encore une fois, méprise les salariés par sa vision biaisée des métiers de l'éducation, de leur rôle et de leurs compétences. Le gouvernement méprise toutes celles et tous ceux qui font des enfants d'aujourd'hui des acteurs du monde futur. À travers l'usage abusif des ordonnances, à travers la réforme du Parlement, le gouvernement avait déjà amoindri le rôle des représentants du peuple et n'a fait que le poursuivre à la faveur de cette crise. Là encore, quel mépris de la démocratie. Le gouvernement, me semble-t-il, méprise tout autant la culture, domaine majeur qui doit permettre d'élever les esprits, de favoriser l'ouverture au monde, le vivre ensemble. La culture est ignorée, presque sacrifiée, comme si elle était gênante. Ce gouvernement méprise tout ce qui n'est pas de sa caste, de la caste des premiers de cordée. Mais où étaient les premiers de cordée pendant cette crise? Où sont-ils encore aujourd'hui, ces premiers de cordée, dont la seule contribution aura été de vouloir faire l'aumône au personnel soignant avec les encouragements sans honte du gouvernement? L'hôpital public et plus largement les services publics dans leur ensemble se sont très largement mobilisés et ont su s'adapter pour faire face à cette crise. Il suffit de regarder autour de nous. Pas une seule femme, pas un seul homme n'a manqué pour soigner, pour éduquer, pour accompagner les plus fragiles, pour continuer à assurer le ramassage des ordures ou tout simplement pour organiser la vie qui continue malgré tout. Le service public, pourtant dans un état de délabrement avancé, a répondu présent et s'est mobilisé pour faire face à cette crise. Il est un bien commun précieux pour tous. Il est ce que nous avons de plus cher. Un service public vigoureux, déjà vecteur d'égalité au quotidien, est une force qui permet d'agir collectivement et de manière concertée dans des situations comme celles que nous traversons. Saluons toutes celles et tous ceux qui en sont les acteurs. Soyons sans relâche son défenseur. Je m'exprimerai de même vis-à-vis du monde associatif qui a vu ses moyens d'action durement remis en cause ces dernières années. Pourtant, par la force de ses bénévoles, là aussi, les associations ont été au rendez-vous et à la hauteur de la situation en poursuivant leurs actions de solidarité, leurs actions de cohésion sociale, leurs actions éducatives, leurs actions culturelles lorsque cela a été possible. De nombreux salariés, employés aussi ont été et sont encore en première ligne de cette crise. Là aussi, avec des moyens de protection parfois insuffisants, parfois sur des missions non essentielles, autant de nos concitoyennes et de nos concitoyens, souvent des classes populaires, souvent des femmes,
envoyés au front, hélas, trop souvent pour des raisons purement économiques. Souvent, hélas, là encore, sans autre reconnaissance que l'aumône qu'on voudra bien leur consentir. Les services publics, le milieu associatif, les classes populaires, voilà ceux qui ont été les vrais premiers de cordée à travers cette crise. Ils n'ont pas grand-chose à voir avec la Start-up Nation et encore bien moins avec les milieux obscurs de la finance. Mais ce sont eux qui méritent le plus d'être honorés, salués et tout simplement, enfin respectés au quotidien et dans la durée. Avez-vous remarqué comment sont si régulièrement évoquées les suppressions d'emplois ? La remise en cause des 35 heures, la casse de la protection sociale, les attaques contre le système de retraite, la prétendue pression des cotisations sociales, les moyens donnés aux services, au secteur public ou associatif, voire même parfois l'idée même de salaire minimum. Avez-vous remarqué aussi à quel point il est impossible d'évoquer les idées de coût du capital, de sacrifice des dividendes, d'impôt sur la fortune, de lutte contre l'évasion fiscale, de nationalisation ? Pourtant, autant de vraies questions d'actualité essentielles pour nous relever de cette situation et regarder sereinement vers l'avenir. Pour que jamais, plus que jamais, nous devons être les défenseurs des vrais premiers de cordée. Plus que jamais, nous devons nous souvenir de cette situation pour que le monde d'après ne reproduise pas les mêmes erreurs que le monde d'avant.
Merci Arnaud Vernier. Monsieur Correa.
Oui, très brièvement, merci tout d'abord, monsieur le maire, d'organiser ce conseil municipal. Nous étions quelques-uns à vous l'avoir demandé parce que nous estimons qu'effectivement, il est important à un moment donné que le temps de la démocratie s'organise tous ensemble. Vous l'aviez aussi projeté, vous, dans l'organisation, donc très bien. Et il se fait ce soir dans des conditions particulières. Donc merci aussi à ceux qui ont travaillé et préparé ce conseil du mieux possible. Moi, je m'inscris effectivement dans le discours aussi de Jean-Bernard Damien et notamment pour aller rapidement de sa conclusion, de sa maxime, de la citation d'Einstein qui est très importante. Merci aussi Arnaud de rappeler un certain nombre de choses, et notamment la place des services publics et puis la place de l'humain finalement dans cette société et dans cette société que l'on souhaite reconstruire différemment dans ce monde d'après. Avec quelque part aussi la volonté que le monde d'après retrouve quelque chose du monde d'avant, parce que se serrer la main, se dire bonjour, se faire la bise, etc., ces liens sociaux que l'on a, c'est quelque chose aussi qui nous manque de manière très importante. Voilà. Et puis peut-être pour résumer, on peut dire que les gens qui ont été quand même en première loge de toute cette crise, les soignants, les caissières, les éboueurs, un certain nombre se retrouvaient il y a un an et demi, deux ans dans les rues et qu'on qualifiait de gilets jaunes. Donc on peut peut-être dire que, aussi en résumé, qu'aujourd'hui c'est la France des gilets jaunes qui a été en première ligne face au Covid et que grâce à eux, la France est toujours bien présente, est toujours là et que demain, à nous de faire mieux humanité tous ensemble.
Merci. Monsieur Thomas.
Oui, je vais être bref aussi parce que je trouve qu'on a déjà passé une heure avec les problèmes techniques et avec un conseil qui devait s'annoncer un peu court, on va finir par faire un conseil très très long. Oui, je m'associe évidemment à tous ces compliments qu'on a fait à tous les services publics et aussi les services privés, parce que je pense qu'on a parlé beaucoup des fonctionnaires, des infirmiers, des soignants, mais il y a, je pense, beaucoup de petites associations et de privés qui ont travaillé, qui ont œuvré bénévolement pour certains dans notre petite ville, hein, mais qui a su se défendre de tout ça. Et on a retrouvé des solidarités qui avaient disparu. Je pense que ça, c'est important. Moi, je voudrais rappeler aussi que tant mieux qu'on ait réussi et tout ça, mais derrière ce drame qui nous touche, il va y avoir un deuxième drame, et moi je pense aux salariés du privé qui vont donner de leur personne. Certains ont déjà donné, hein, parce que je peux vous dire que dans le privé, eh bien, ça travaille dur, mais pour certains, ça ne travaille plus. Et pour certains, ça ne retravaillera plus du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut penser à ces gens-là qui ne retrouveront pas leur travail. On n'en a pas forcément beaucoup ici, mais dans les grandes villes, le monde du tourisme va être gravement touché. Et je pense que c'est l'avenir qu'il faut construire aujourd'hui. Et c'est à cela que je pense, moi, beaucoup aujourd'hui. La fonction publique, elle est là pour l'intérêt de tout le monde. Mais on a pu se rendre compte d'une chose, c'est que le statut de la fonction publique, aujourd'hui, ça protège beaucoup. Donc, moi, je pense à tous ceux qui ne sont pas protégés par ce statut-là et qui sont autour de moi, pour certains, gravement touchés. Voilà. Je voudrais aussi dire une chose, c'est la commune. J'ai l'impression qu'on a redécouvert ce que la commune représentait. Nous-mêmes, élus et citoyens, on a redécouvert, finalement, la commune, c'est très, très important. Et je pense qu'au plus haut lieu de l'État, on a redécouvert ce que on ne croyait plus. Enfin, moi, je pense qu'il y a certains élus au plus haut de la nation qui avaient complètement sous-estimé l'importance de la commune. Et je pense que la France, elle est bâtie sur la commune. Et aujourd'hui, ben, cet événement, au moins, il nous a ouvert les yeux là-dessus. Moi, en tant qu'élu, moi, je trouve que ben, je vais sans doute finir moi mon dernier mandat. Eh bien, moi, je me trouve satisfait. Je me dis, ben, j'ai servi ma commune pendant 19 ans. Et je me dis, ben, j'espère qu'il va y en avoir d'autres. Et il y en aura d'autres derrière moi. Et il faut se dire une chose, c'est que d'être élu, c'est important. Et élu d'une commune, c'est la base de la France. Moi, j'en terminerai par ça. Et je pense qu'il faut penser à l'avenir à travers la commune.
Merci, M. Thomas. M. Gipoulou.
Oui, je partage beaucoup de ce qui a pu être dit par les uns et les autres, par la totalité d'ailleurs des uns et des autres. Je me souviens avoir assisté le 2 avril 2017 à un meeting, pas très loin, à Châteauroux, du candidat Mélenchon, et ce meeting étant consacré à la question sanitaire, il y était annoncé en disant que la prochaine crise, vu l'état de l'hôpital, vu l'état de la santé en France, vu l'état de tout ce qui avait été asséné, serait vraisemblablement sanitaire. Et c'est vrai qu'après, par la suite, j'ai pu penser que nous allions connaître, et nous le connaîtrons sûrement, et nous connaissons une partie des crises qui auraient des portées écologiques. Aujourd'hui, force est de constater que la crise que nous avons traversée est une crise qui vient de la désorganisation profonde de l'organisation sanitaire que nous avons dans ce pays et que nous avons à l'échelle mondiale, puisque nous l'avons constaté à l'échelle mondiale. Voilà, nous étions face à une maladie, crise sanitaire, crise de la recherche fondamentale aussi. Et c'est-à-dire qu'au moment où nous connaissons cela, eh bien nous sommes, nous l'avons vu, nous sommes bloqués, nous avons des morts, parce que à un moment, notre organisation dans le territoire fait que nous ne sommes pas capables de supporter une montée en charge rapide et brutale du nombre de malades en réanimation. Et ce n'est pas... Il y a eu quelques cas compliqués, mais ce n'est pas les cas compliqués, c'est parfois des cas malheureusement banals, où il aurait fallu juste des lits pour que les gens survivent. C'est ça que nous avons eu. Et pendant des années, moi je pense à ce qu'on a pu défendre par rapport à cette question, et encore ces derniers mois, effectivement, j'ai à penser, souvenons-nous tous ici, que nous avions les personnels infirmiers, les personnels médicaux qui étaient en manifestation, et avant qu'on leur dresse des louanges, qu'on les applaudisse à 20h et qu'on leur propose une médaille, eh bien l'État leur envoyait la police en les réprimant assez sévèrement. Voilà, donc oui, ça c'est un des enseignements. Aujourd'hui nous sommes une grande nation, et nous sommes une grande nation qui à un moment comme celui-là, comme d'autres grandes nations, il y en a qui tombent de haut également, mais ça ne nous relève pas plus, eh bien, nous sommes capables de constater que si à un moment les cas se concentrent dans une partie de notre territoire, nous ne faisons pas face. Ou nous mettons un certain temps à faire face et que nous faisons face au prix de quantité de victimes. Et ça a été dit, au prix de choix douloureux et impossible à dire, évidemment des personnels soignants quand ils avaient à choisir qui fallait... traiter dans ces moments-là. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que nous devons garder en tête, et ça ne nous tombe pas du ciel. Cette organisation et cette désorganisation est le produit d'un travail politique, le produit d'une idéologie qui vise à tirer profit d'absolument tout, y compris de la santé, y compris de ceux qui ne devraient pas avoir de prix, qui a estimé qu'il y avait des coûts là où il n'y aurait pas dû avoir de prix. Voilà, c'est ça que nous avons aussi sous les yeux. Alors bien sûr, derrière, et je suis à 100%, nous partageons ces thèmes d'ailleurs depuis longtemps par rapport à ce que disait Jean-Bernard sur les questions écologiques. Là aussi, on a pu voir que les solutions de relocalisation, que les solutions qui permettent de mettre au plus près de nous, de constituer des autonomies alimentaires, de constituer des circuits vivriers très proches, des circuits d'alimentation qui ne dépendent pas de l'extérieur, nous permettent de mieux tenir face à ce type de crise. Donc on a des enseignements qui sont donnés. Quand j'étudiais, on nous disait, en définissant les crises, on disait les crises, c'est un moment de perturbation, de profonde perturbation, avant le retour à la normale. Eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de retour à la normale, parce que c'est la normale qui crée la crise, en l'occurrence. La crise doit nous permettre de partir sur autre chose. Voilà, plus jamais ça. Évidemment, derrière tout cela, il y a vraiment un chapeau bas à donner à toute une série de professionnels, du public et du privé. Les services publics ont répondu présent et heureusement que notre pays est encore assis sur un socle de services publics nationaux et communaux profondément ancrés et encore sur un maillage que nous prenons la peine de financer, de continuer à financer parce que nous savons que c'est un filet de sécurité important. Oui, heureusement. Nous avons pu constater à travers toutes ces activités que il y a aussi un certain nombre de métiers qui s'en sont retrouvés socialement, en tout cas sanitairement revalorisés. Qu'aurions-nous fait sans les éboueurs? Qu'aurions-nous fait sans les personnes qui nettoient? Aujourd'hui, quand on veut savoir si on peut réouvrir un service, on regarde d'abord combien il nous reste de personnes pour nettoyer. Avant de savoir si, je le dis à dessein parce que je travaille dans un établissement qui va être amené à réouvrir, mais avant même de savoir si on va pouvoir enseigner, on regarde d'abord si on va pouvoir nettoyer. Et c'est valable. Ça se décline, et ça se décline dans le secteur privé comme dans le secteur public. Je fais comme Jean-François, je mets le même coup de chapeau aussi aux salariés du privé. Une partie d'entre eux n'ont jamais arrêté de travailler, quel que soit, en prenant au fil de la crise, justement, les mesures et les adaptations, mais s'il l'avait fait, n'aurions-nous pas eu plus de difficultés à nous nourrir? N'aurions-nous pas eu plus de difficultés à voir nos approvisionnements? Bref, cette société a été fortement éprouvée et c'est une forme d'héroïsme de certains de ces travailleurs qui nous a permis de passer le cap. Et puis, pour autant, on sait qu'on attend un effet rebond. Et quand je dis l'effet rebond, je mets volontairement, je m'inquiète d'un effet rebond sanitaire, mais nous savons derrière qu'il y aura un effet rebond économique. Nous savons qu'il a commencé. Une enquête récente de l'Organisation internationale du travail montrait à quel point la jeunesse était touchée, la première touchée par le chômage, déjà à des niveaux à des taux très importants avant la crise, mais ce sont les premiers à avoir été mis sur le côté, ce sont les premiers licenciés aujourd'hui. Nous savons qu'il y a quantité de, comme l'a dit très bien Jean-François, il y a quantité de personnes qui sont aujourd'hui, qui ajoutent à l'inquiétude qu'ils ont eue pour leurs proches et dans leurs chairs, l'inquiétude au fond régulière dans certains milieux de la perte d'emploi et derrière de tout ce que ça pourrait susciter pour leur situation. Jean-François l'a dit, le statut de la fonction publique protège. Et il l'a dit d'ailleurs dans un esprit en disant finalement tant mieux. Et donc il nous faut réfléchir à comment protéger plus les salariés du privé plutôt que de constamment casser les règles du code du travail, plutôt de constamment démanteler ces secteurs. Voilà, il leur faut aussi des protections. Bon, je m'associe et je partage également ce point de vue. Je pense que la crise a remis en selle, mais au fond je pense qu'elle y était déjà, mais elle a montré avec beaucoup d'acuité l'importance que revêt dans l'esprit des citoyens le rôle de la commune. Voilà, la crise fait qu'à un moment, quand on a un problème, on se tourne vers sa municipalité principalement et on essaie de trouver du reste. La municipalité, et je ne le redirai pas, a permis, comme ailleurs, effectivement de maintenir des minimums de la couverture. On a pris en charge tout de suite les personnes les plus âgées, enfin, permettant de maintenir les repas à domicile, permettant voilà, des mesures qui ont permis, par cercle concentrique, en partant des plus faibles, c'est pour ça que le CCAS a été fort justement cité par Arnaud Vernier, eh bien de d'établir son bouclier de protection communale et progressivement de le renforcer au fur et à mesure où la situation de nos services, et il faut leur rendre un hommage particulier, parce que organiser cela dans un contexte où évidemment et normalement on avait permis aux salariés en garde d'enfants, aux salariés en situation à risque, évidemment, de prendre leurs précautions, eh bien, il fallait organiser les services avec le reste, il fallait quand même être présent, donc il fallait trier aussi les activités et les porter sur l'essentiel. Ça a été fait et ça mérite d'être fortement souligné. Et là, je rebondis sur la remarque de Jean-Bernard tout à l'heure sur la date du scrutin qui nous est annoncée. Franchement, dans ce contexte, nous compliquer la tâche avec cette organisation qui se révèle être une désorganisation alors qu'on a tant de besoins sur d'autres plans qui... Bon, voilà. Donc, tant pis, nous allons retirer de la matière grise et des bras pour aller faire vivre cela alors que je pense qu'on aurait pu prendre d'autres décisions. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est un choix qu'il faudra s'en questionner après. Voilà ce que je voulais en dire. Je finirai moi-même par une petite citation qui nous permet finalement de méditer aussi sur la question. Je pensais, elle vient de Coluche, qui disait qu'il paraît que lors des crises, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Il dit, je ne vois pas en quoi c'est une crise, depuis que je suis petit, c'est toujours comme ça. Donc, ne revenons pas à la normale, profitons de ce que nous constatons pour sortir de ce modèle qui n'en est pas un, on l'a bien vu.
Merci.
Oui, moi je voudrais...
Madame Vincent,
non, mais c'est juste, alors moi, je m'associe à tout ce qui a été dit et de manière globale, parce que vraiment, il n'y a que des remerciements à porter ici ou là, mais je voudrais quand même aussi, donc, on a cité le CCAS, et c'est vrai que ça a énormément... le rôle a été très important, primordial, mais je voudrais aussi qu'on signale, enfin je veux signaler, le rôle d'Anima et des associations, des autres associations, qui ont accompagné pendant 2 mois toutes les familles, tous les enfants, indépendamment de l'accompagnement scolaire, il y avait l'accompagnement des associations. Et ça a été un gros travail, organiser en visio des séances pour continuer l'accompagnement des enfants, se renseigner toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, comment vont les familles, comment elles font pour imprimer le fameux document, pour faire des photocopies, parce que l'école demandait des photocopies, etc., etc. Les familles du quartier prioritaire avaient vraiment besoin d'Anima et des associations. Je voudrais simplement qu'on n'oublie pas le travail de ces personnels.
Merci, Daniel. Pas d'autres déclarations ? Très bien. Donc on va commencer par le point numéro 1. Et je vais, contrairement à mon habitude... Oui, pardon, ah oui, il faut que je pense, Cécile. Je suis désolé, je ne pensais plus aux gens qui étaient en visio. Oh, je t'en prie, Cécile, vas-y.
Ah, c'est pas grave.
Voilà, merci beaucoup.
J'espère qu'on m'entend.
Oui, on t'entend bien.
Très bien. Juste une chose par rapport... évidemment, je m'associe aussi à tout ce qui a été dit. Juste une chose par rapport à cette crise, c'est que ce confinement nous a montré aussi que d'un point de vue écologique, l'effort qui serait nécessaire de faire pour faire une pause dans les activités humaines, et on se rend compte réellement de l'impact que ça a au niveau économique, social, etc. Et que la charge qui va être maintenant aux équipes qui viendront et aux équipes qui viendront au niveau supérieur, elle devra prendre en compte tout ça, parce qu'il y a des secteurs qui s'effondrent si on ralentit. Et si on ralentit pas, c'est la terre qui s'effondre. Donc, quels sont les choix? Comment ça va s'organiser? C'est quand même, ça a été, je vais dire un point positif, mais un point très significatif de cette crise aussi, indépendamment de l'aspect sanitaire catastrophique.
Merci Cécile et pardonne-moi, ah ben, Gérald, là maintenant je regarde bien l'écran, vas-y Gérald, tu as la parole.
Non, moi c'est très rapide, je suis en accord avec tout le monde, c'est évident, je ne vais pas refaire les choses, ça a été très bien dit, je ne le ferai pas spécialement mieux, je n'ai pas envie de le faire. J'ai juste une pensée pour une corporation que vous connaissez et que je côtoie relativement bien, Michel, tu dois voir où je vais arriver, c'est nos amis forains. Parce que pour le moment, ils sont laissés un peu sur le bord de la touche. Moi, je les suis d'enfance sur, sur les réseaux sociaux. Et franchement, voilà, quoi, ils sont un petit peu dans la misère, déjà qu'ils le sont un petit peu souvent. Mais là, en l'occurrence, effectivement, il y a deux poids, deux mesures. Et l'économie, pour certaines entreprises que je ne citerai pas, la réouverture peut se faire. Pour d'autres, elle ne se fait pas. Je suis d'accord que pour les raisons sanitaires et les gestes barrières, ça sera très dur à mettre en place. J'en suis totalement conscient. Je suis le premier à... Mais voilà, je veux au moins avoir une pensée pour eux parce que je pense qu'ils le méritent et ils savent nous donner ce qu'on attend quand on en a besoin. Voilà.
Merci Gérald. Je dirais... Je salue l'arrivée de Serge Falipou. Je ne sais pas s'il nous entend. Bonjour Serge.
M'entendez?
Ah oui, tu oui, nous manquais.
J'ai eu un problème, j'étais en erreur à chaque tentative de connexion.
Oui, mais pour un radio amateur, c'est pas fort.
Hein. Merde.
On est très content de te voir, Serge, très content, vraiment.
En fait, c'est qu'il n'était pas réveillé, donc il a loupé l'horaire.
Mais... Ravi que tu nous aies rejoint. Je veux juste, je veux pas faire de déclaration, en clôture du conseil, peut-être deux mots, mais par rapport à ce que vient de dire Gérald. Gérald, les forêts ne sont pas oubliées par tout le monde.
Non.
J'ai fait remonter trois fois auprès de la préfecture et donc au plan national le désarroi, pour pas dire plus, dans lequel ils se trouvaient. Et tu sais que je les ai personnellement rencontrés. Plusieurs fois. La Trinité a été annulée parce que la situation de crise au moment où on en parlait, et ça se prépare une Trinité avec un comité des fêtes et tout, ça se fait pas en 8 jours. Les forains au plan national sont très mécontents parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. J'ai indiqué ça à la préfecture de la Creuse. J'ai indiqué ça aux parlementaires et j'espère, d'ailleurs je pense qu'on va voir un certain nombre de choses qui pourraient se passer. Ils vont faire savoir qu'ils sont là. Ils ne s'en veulent pas, là, ils n'en veulent pas à la mairie de Guéret, puisqu'ils me l'ont dit encore jeudi dernier, quand je les ai vus. Mais je les redis à la préfecture. L'espace qu'il reste, mais je ne peux pas aujourd'hui en dire plus. L'espace qu'il reste, c'est que l'année 2020 n'est pas finie. Et que peut-être, dans l'évolution de la situation, alors aujourd'hui, il n'y a pas de rassemblement de plus de 10 personnes encore, donc c'est compliqué. Mais, et puis, on ne peut pas faire la Trinité, c'est toujours le dimanche après la Pentecôte, donc, c'est-à-dire dans 8 jours. Donc impossible de l'organiser aussi vite. Mais l'année n'est pas finie. J'en dis pas plus. Ça veut dire que s'ouvre peut-être un espace de négociation sur une date.
Absolument.
Voilà.
Prochain, les portes ouvertes.
Voilà. Donc la porte, je dis ça parce que j'ai eu la préfète, madame la préfète, pardon, au téléphone avant-hier et que nous en avons convenu ensemble avec son directeur de cabinet. C'est donc la réponse qu'ils auront. À eux de voir. Alors, tu sais que c'est compliqué parce qu'ils ont tous des fêtes à différents endroits et que trouver une date commune n'est peut-être pas un exercice facile. Mais la porte qui était fermée au moment où la Trinité, où nous avons annulé la Trinité, et j'ai accepté cette idée d'annulation, après en avoir parlé bien sûr à mon bureau municipal, cette idée d'annulation, il y a peut-être une porte qui s'est entrouverte pour autre chose. Mais il appartiendra, vu l'époque où on se trouve, à ceux qui seront en pouvoir de décision après le mois de juillet, enfin vers la mi-juillet, le temps que tout le monde s'installe, d'en décider avec eux. Voilà, moi je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. Mais la porte n'est plus totalement fermée, ça me fait plutôt plaisir. Voilà, pardon d'avoir répondu, mais... Je sais, tu sais, on les voit régulièrement parce que ils sont pas là avec leur manège, mais ils sont là autrement. Donc,
oui, et puis nous, on est là aussi sur le marché. Donc.
Et on leur parle. Voilà, merci Gérald et merci à tous. Alors je promets que je regarderai bien l'écran pour voir s'il y a des paroles qui viennent de la vision.